Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Dynamique Radio comme tous les lundis, on est ensemble jusque 19h et il est au rendez-vous aussi comme toujours avec moi, Adrien est là, bonjour Adrien.
Bonjour Audrey, je suis content d'être là pour la dernière de la saison.
Et oui, on se retrouvera après en septembre. Et elle n'est pas à côté de nous ce soir, mais elle sera avec nous par téléphone en deuxième partie d'émission, Marie-Audrey Boisard, coach en parentalité positive. Elle a créé le podcast de la femme à la mère et de la mère à la femme, une série d'interviews mettant en lumière les récits de femmes, de mères et de grand-mères pour partager leurs histoires, leurs expériences et leur vision sur l'art de devenir parent. Ce sera dans la seconde partie d'émission. L'interview de notre invité ainsi que toute l'émission seront bien entendu disponibles en replay sur notre page Instagram de Nous Avoue Radio ou directement sur la page podcast de Nous Avoue.lepodcast.fr. Et au programme de votre émission aujourd'hui, dans la première partie, Adrien et sa chronique, les mots plus forts que le récit. Alors ça, je demande à voir ce que c'est. J'ai une énigme ce soir.
C'est une énigme, on va parler de Joe le taxi, je ne sais pas si tu connais,
oui.
Et de En voiture Simone.
C'est très complet. Je vous expliquerai quant à moi comment améliorer votre concentration. Et enfin, à l'honneur dans les portraits d'Adrien ce soir, une grande dame de son vrai nom, Annie Chancel, hein, qui s'est fait connaître avec son 45 tours. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Oh là là,
je
qu'est-ce qu'elle chante bien.
Oh là là.
Oh, c'est la première fois qu'elle nous chante. C'était super.
Et ouais, titre qui a atteint quand même 400 000 ventes en 1964. Et oui, j'ai nommé la grande Sheila. Dans la seconde partie d'émission, nous accueillerons notre invitée donc, du jour, Marie-Audrey Boisard, femme, maman et coach en parentalité positive. Marie-Audrey sera avec nous par téléphone pour nous parler de sa nouvelle approche, de cette nouvelle approche qui privilégie la théorie de l'attachement et l'autonomie de l'enfant. C'est une méthode qui s'appuie notamment sur la psychologie humaniste et positive, tout en utilisant les neurosciences. Elle soulage les parents en leur offrant des outils concrets et efficaces pour le quotidien. Restez avec nous, c'est sur Dynamique Radio. Mais tout de suite, Ray. Call on me. Call my name when you're alone. And when you need, I'm by the phone. And I'll share blame if lies are true. If you go down, I'm coming too. Keep holding on. Ray, Call on Me sur Dynamique Radio. Adrien, c'est à toi, place aux mots et aux récits.
Oui Audrey, alors j'ai dressé ce constat. Mais eh bien, parfois les mots sont plus forts que le récit. Les mots peuvent pousser à l'oubli. Partons donc ensemble Audrey sur le chemin de ces petits récits. Viens avec moi Audrey, en voiture Simone.
En voiture Simone, en voiture Simone. C'est moi qui conduis et c'est toi qui klaxonne. En voiture Simone, en voiture Simone. C'est moi qui conduis et c'est toi qui klaxonne.
En voiture, Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Alors ce week-end, je suis remonté sur les traces de cette expression française. J'ai enquêté sur qui était cette fameuse Simone. Alors rien à voir avec Simone de Beauvoir, Simone Signoret ou encore Simone Veil. Cette expression est née grâce à Simone Louise Desforêts, l'une des premières femmes à obtenir son permis de conduire. En 1929, à l'âge de 19 ans, Simone Louise Desforêts obtient ce premier sésame et un fait très rare pour l'époque. Cependant, Simone ne va pas en rester là. Elle va une nouvelle fois bousculer les préjugés de l'époque. Simone va se lancer dans une carrière de pilote automobile. Pendant plusieurs années, elle va concourir à de nombreuses courses mythiques, comme le célèbre rallye de Monte Carlo où elle soulèvera la Coupe des Dames. Simone Louise Desforêts, une femme qui n'hésite pas à faire une queue de poisson aux préjugés de son époque.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat ?
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Simone-Louise Desforest n'hésite pas à participer à l'effort de guerre. Elle s'engage auprès de la Croix-Rouge afin de conduire les camions de l'association. Une passion pour les camions qui perdurera. Au sortir de la guerre, elle participera au championnat de France des routiers. Simone, pied au plancher face aux préjugés. En 1950, elle sera la première femme à ouvrir une auto-école dans laquelle elle enseignera le code de la route. À défaut de bousculer le code de la route, Simone va bousculer le code de la société. En voiture, Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Une expression née pour encourager cette femme au destin si particulier. Cependant, cette expression a été popularisée et connue du plus grand nombre grâce à l'émission de télé. Audrey, est-ce que tu te souviens ou pas de cette émission, de ce générique ?
Bien sûr, c'est pas le générique d'Interville ?
C'est ça.
Ouais, mais j'adorais quand j'étais
quand
jeune.
Quand j'étais petite,
mais oui,
c'était
oui. Les vachettes.
C'était
Nathalie Simon qui présentait.
Tout à fait. Et il y a eu, donc à l'époque sur Interville, créée en 1962, l'émission, donc Top à la vachette. Donc deux villes s'affrontaient dans une arène, l'arène d'Interville. Une émission familiale et populaire. Alors pendant plusieurs années sur l'ORTF, première chaîne du pays, il n'était pas rare d'entendre les deux célèbres animateurs de l'époque, Guy Lux et Léon Zitrone, interpeller leur compère Simone Garnier avec l'expression « En voiture Simone ». Et c'est grâce à la popularité du jeu que l'expression a pu être entendue par le plus grand nombre et être diffusée dans la société. « En voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne ». Malgré la popularisation de l'expression, l'histoire de Simone Louise Desforest est tombée petit à petit dans l'oubli. Le constat demeure donc, quand les mots sont plus forts que le récit. C'est aussi ce qui est arrivé à Marie-Josée Léos Dos Santos, dite Jo dans la chanson. Vous aurez reconnu la jeune Vanessa Paradis qui chante en 1987 ce titre « Joe le taxi », un titre au succès incontesté. « Joe le taxi », quand je disais que les mots sont plus forts que le récit. Là encore, une femme a basculé dans l'oubli. Cette chanson, écrite par le parolier Étienne Rodagil, s'inspire de Maria José Lealos Dos Santos, alias « Joe la ». Taxi. Dans les années 70, Joe a fui le régime autoritaire instauré au Portugal par Salazar. Cette fuite l'a conduite en région parisienne. Après avoir enchaîné les petits boulots sur le conseil de sa compagne, Joe devient taxi et sillonne les rues de la capitale. Non pas dans son taxi jaune, mais dans son Opel blanche. De son temps libre, Joe, toujours vêtu d'un look à la garçonne, écume les clubs parisiens. Et de fil en aiguille, elle deviendra LA taxi des personnalités du showbiz. Un soir, un client monte dans son Opel blanche. Le parolier, Étienne Rodagil. Joe lui raconte son histoire, et ce sur un fond de musique rumba et de vieux rock mambo. Fin de la course, vous êtes arrivé. Avant de payer, le parolier demande à Joe s'il peut écrire une chanson sur son histoire. Joe accepte, naissance du tube Joe le taxi. Quand les mots sont plus forts que le récit. Joe la taxi ne reverra jamais le parolier et n'aura jamais eu la chance de rencontrer Vanessa Paradis. En 2019, Joe devait se rendre pour la première fois de sa vie à un concert de l'artiste. Cependant, la vie en a décidé autrement. Joe fut emporté par un cancer. Une nouvelle fois, les mots étaient plus forts que le récit. Derrière des chansons et expressions peuvent se cacher des personnalités parfois oubliées. C'est pourquoi je tenais à regarder dans le rétroviseur afin de rendre hommage à ces deux reines du volant, Simone Louise de Forest et Maria José Lea dos Santos, alias Joe. Et pour leur rendre hommage, dressons donc ce constat, si les mots sont plus forts que le récit, eh bien sans le récit, les mots ne prennent pas vie.
C'est magnifique. Quelle belle chute.
Quelle belle chute.
Une autre grande dame, Clara Luciani, on l'écoute avec Respire encore.
C'était Clara Luciani, Respire encore sur Dynamic Radio, un titre issu de son nouvel album Cœur. Il est 18h17 et c'est l'heure du bloc-notes d'Audrey.
Et oui, ce soir, on améliore sa concentration. Alors, se concentrer, c'est être capable de mobiliser toutes ses capacités physiques et cognitives dans le but de réaliser une tâche en pleine conscience. La concentration suppose de se focaliser sur un ou plusieurs éléments précis sans se laisser envahir par des pensées parasites. Être capable de bien se concentrer permet de devenir plus performant, tant dans la vie professionnelle que dans le monde du sport, voire simplement pour bricoler à la maison, finalement. Cette capacité à se concentrer, elle est très inégale selon les personnes, mais heureusement, eh oui, elle se travaille. Et voici quelques clés pour la travailler, justement. Première chose, soignez votre hygiène de vie. Alors, une mauvaise hygiène de vie altère vos capacités de concentration. Tout d'abord, la qualité du sommeil joue un rôle essentiel. Plus vos nuits seront agitées, plus votre capacité attentionnelle sera diminuée en journée. Ensuite, pensez à manger équilibré, hein, privilégier une alimentation riche en fruits et légumes, en antioxydants pardon, et en oméga 3. A l'inverse, évitez un apport trop élevé en graisse saturée ou encore les cuissons à trop forte température qui, figurez-vous, accélèrent le vieillissement des cellules. Tu le savais ça, Adrien ?
Pas du tout. Et voilà. Je ne pensais pas que l'alimentation pouvait directement jouer sur ma concentration.
Et ben voilà.
Donc je vais re-regarder ce que j'ai dans mon frigo.
5 fruits et légumes par jour. Enfin, de nombreuses études ont montré que la sédentarité nuisait à la concentration. Alors, un seul mot, bouger.
Voilà. Allez, on bouge, on bouge.
D'ailleurs, le sport, hein, c'est un outil extrêmement efficace pour améliorer la concentration. Une étude de l'université de Dartmouth, publiée en 2014 dans la revue Frontier in Psychology, révélait que 12 minutes d'activité physique par jour permettaient d'améliorer la concentration en classe d'un adolescent. Chaque activité développe un type de concentration. Ainsi, le foot favorise une concentration large puisque le joueur doit se concentrer finalement sur la conduite du ballon, le placement de ses coéquipiers, de ses adversaires. Voilà, il a tout un champ à se concentrer finalement. À l'inverse, d'autres sports comme l'escrime développent une concentration très courte et sur un seul objet. Le sudoku, les échecs ou les mots croisés, par exemple.
Ce n'est pas du sport, ça.
Bah, ce n'est pas du sport, mais ce sont de très bonnes activités pour augmenter les facultés de concentration. Voilà. Mais ce n'est pas du sport. C'est du sport de l'esprit.
C'est vrai, c'est voilà. Une forme de gymnastique.
Exactement. Créer un environnement favorable à la concentration, c'est aussi un élément très important. Alors, les difficultés pour se concentrer sont souvent liées à un environnement peu propice. On le voit beaucoup avec la généralisation des open space dans les bureaux. Hein, tu travailles en open space, toi, Adrien ?
Non, on est deux dans le bureau.
Oh, ça va.
Mais j'entends un open space qui est juste à côté à une porte.
Est-ce que ça t'empêche de te concentrer ?
Ah bah puis j'ai plus tendance à aller les voir et je travaille mieux tout seul en fait chez moi que entouré de mes collègues.
Certains se concentrent avec de la musique dans les oreilles aussi. Enfin ça dépend. Chacun son style. Chacun doit donc apprendre à trouver finalement sa propre recette pour se créer sa bulle de calme. Ce que je disais, mettre un casque audio avec de la musique, mettre des boules qui est, c'est un peu moins glamour, mais bon. Rester en télétravail à la maison, l'essentiel, effectivement, c'est de se créer sa bulle de calme. La concentration suppose aussi d'être pleinement dans l'instant présent. Alors ça, c'est un grand mot qu'on adore aussi
en programmation neurolinguistique. Je comprends ce que tu veux dire, oui.
Pleinement dans l'instant présent, c'est-à-dire vivre l'instant présent et ne pas penser déjà à la tâche qu'on va effectuer dans 5 minutes.
Ah bah alors moi, je vais écouter tes conseils parce que justement, je pense toujours à l'après.
Tu anticipes.
Je suis jamais sur le moment, je suis déjà sur le coup d'après.
Et ouais. D'accord. Un garçon très prévoyant. Le yoga, la sophrologie, tu vois ce que c'est la sophrologie ?
Bon, je crois qu'on en a déjà parlé, Audrey.
Tout à fait.
Attention,
bien,
tu essaies de me...
C'est très bien.
En cette fin de saison, tu essaies de voir si j'ai...
Si tu as suivi les émissions précédentes, effectivement. La méditation aussi propose justement différentes techniques pour s'ancrer pleinement dans le moment présent. La sophrologie, hein, pour rappel, c'est un ensemble de techniques de relaxation, de respiration et de pleine conscience, si vous n'avez pas suivi les émissions précédentes. Vous comprendrez donc que bien respirer fait aussi partie des techniques qui favorisent une meilleure concentration. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la respiration demande un relâchement physique qui abaisse le niveau de stress. Ensuite, parce que réduire les battements de votre cœur permet de réguler vos émotions, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des pensées négatives qui vous traversent l'esprit sans cesse. C'est en effet un très bon moyen de lutter contre un cercle vicieux, le stress, qui est souvent lié finalement à des projections mentales négatives.
Et moi, ce que je conseille, du coup, tu nous parles de respiration, c'est d'aller voir tes précédents bloc-notes où tu nous avais donné des conseils et des tips pour bien respirer au quotidien.
Exactement, et je vais reprendre quelque chose que j'ai déjà dit sur une précédente chronique.
Elle avait plus envie de travailler aujourd'hui, elle a repris les précédentes chroniques, elle a tout collé.
Bien sûr que non, je fais un récap en fait de tout ce qui a été dit, mais juste pour faire le test, fermez vos yeux, allez, fermez vos yeux.
Je ferme mes yeux.
Et portez toute votre attention sur votre ventre, qui se gonfle et qui se dégonfle. Et
oui.
Juste visualisez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Cela vous permet de focaliser sur votre corps, qui contrairement finalement à votre cerveau, il est toujours dans le moment présent. Si vous avez du mal à faire l'exercice, placez juste une main sur votre ventre et sentez votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au fur et à mesure des inspirations et des expirations. Et juste ça, ça vous permet d'être dans le moment présent.
Et moi, je suis à deux doigts là, tomber dans un coma.
Ah non, t'endors
dans
pas.
Dans un sommeil.
Dans un sommeil profond. Non, reste avec moi. Donc, l'ancrage, c'est une autre technique intéressante pour la concentration, qu'on utilise d'ailleurs beaucoup en préparation mentale. Et c'est une technique qu'on avait vue avec Guilin, souvenez-vous, c'était notre toute première émission. Guilin qui était venu nous parler de préparation mentale, justement. Et bien, il nous avait parlé d'ancrage. Et c'est un terme qui vient de la programmation neurolinguistique. Il s'agit simplement d'associer une pensée ou un souvenir positif un geste. Alors, par exemple, vous pouvez vous toucher le pouce ou l'index. Les joueurs de tennis, ils ferment les yeux, par exemple, ou ils font rebondir une balle. Ça, c'est un ancrage, en fait. Ils associent le geste à un souvenir positif.
D'accord.
Un souvenir qu'on dit être dans le flow, finalement. Un souvenir, voilà. Un moment de ta vie où tu as été super performant, où tout allait très bien, où tu t'es senti jamais plus au meilleur de toi-même que là. Et bien, tu l'ancres sur un geste et ensuite... tu peux ressortir finalement ce geste dans les moments difficiles. Ça te permet de faire ressortir ce moment positif.
D'accord, donc un peu comme une petit souvenir que tu garderais et qui te replace dans un bon dynamisme.
Exactement. Et je t'assure que quand tu t'entraînes, c'est vachement efficace. Beaucoup de sportifs utilisent cette technique d'ailleurs pour faire remonter leur énergie avant le départ. Bien entendu, pour que cette association fonctionne, il faut le travailler en amont. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça nécessite beaucoup de pratique. C'est une très bonne méthode à utiliser si vous avez une prise de parole en public à faire, par exemple, dans le milieu professionnel. Pratiquer la visualisation positive, c'est encore une technique de préparation mentale. Il s'agit de créer une image positive d'un événement, de vous imaginer en train de réussir. Cela permet de conditionner le cerveau à réussir justement et de ne pas penser au négatif et se concentrer uniquement sur l'objectif à atteindre. Donc voilà, deux techniques super efficaces, l'ancrage et la visualisation positive. Pour augmenter votre concentration, vous pouvez aussi utiliser une technique vous permettant d'accroître votre capacité à maintenir votre attention sur un point précis. En d'autres termes, il s'agit d'apprendre à augmenter votre temps attentionnel. Alors, petit exercice. On y va. Fixez un objet pendant 3 minutes, comme une balle, par exemple.
D'accord.
D'accord, tu fixes. On va peut-être pas le faire 3 minutes là en direct,
oui, mais
voilà.
Tu fixes
un objet pendant 3 minutes. Observe ta couleur, sa couture, la marque. L'objectif, c'est que la balle occupe tout ton espace mental. Tout votre espace mental. Si une autre pensée arrive, laissez-la s'installer. Puis voyez si vous pouvez la faire partir. Notez combien de temps vous avez réussi à rester concentré sans penser à autre chose. Commencez par 15 secondes, puis 20 secondes, puis on augmente progressivement ce temps. Et ça va vraiment vous permettre d'augmenter votre concentration et d'arriver à augmenter votre temps, ce qu'on appelle un temps attentionnel, pour être attentif à l'instant présent.
Un peu comme du sport ou l'apnée, ça se travaille et
exactement.
Ça s'améliore petit à petit.
Exactement. Enfin, mettez en place une routine avant de jouer un match, par exemple. Important, les sportifs suivent tous une routine pour se mettre dans leur bulle. Alors, il y en a certains qui écoutent de la musique, d'autres qui visualisent leurs gestes, qui font certains mouvements. Il en va de même pour une prise de parole en public. À vous de trouver votre routine à vous, afin d'éviter toute pensée parasite qui pourrait venir nuire à votre concentration. Tous les exercices demandent un vrai travail mental. Vous n'êtes pas obligé de faire tout tous les jours et de tous les faire. C'est à vous d'identifier lequel ou lesquels vous seront les plus appropriés pour gagner en concentration et bien sûr de les répéter très 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 régulièrement. Tous les exercices finalement, musique, sport, respiration, visualisation, exercices mentaux, voilà, ce sont finalement des moyens pour arriver à cette concentration. Et c'est maintenant à vous de jouer, je ne peux pas dire mieux.
Merci
Audrey. Tu choisiras
Audrey.
Quoi toi Adrien?
Moi, j'ai bien aimé l'histoire de 3 minutes sur un objet, voir si ça marche.
L'histoire de...
Le petit conseil des 3 minutes sur un objet.
C'est vrai ?
Mais en tout cas, tu nous as fait voyager avec plein de petits parallèles de tes précédents bloc-notes et ça, ça fait plaisir.
Voilà, je voulais faire un petit rapprochement par rapport à tout ce qui s'est fait sur ces 8 dernières semaines. Et bon. Ouais, ça fait déjà 8 semaines.
C'est vrai.
Voilà. Eh bien, avec tout ça, il est 18h26 et on t'écoute maintenant.
Alors moi, j'ai bossé. Du coup, j'ai fait un nouvel artiste, Audrey.
Ouais, non, mais
j'ai pas voulu reprendre ce que j'avais fait il y a 2 semaines. Hein. Donc, 27 albums, 92 singles, 4 albums compilation, 12 coffrets CD, vinyle, 6 films, 5 disques d'or, une victoire de la musique. Alors aujourd'hui, vous comprenez que je vais m'atteler à mon humble niveau à dresser le portrait d'une artiste de haut niveau. Une star de la scène française depuis 50 ans, celle qu'on surnommait la petite fille de français moyen. À l'honneur aujourd'hui dans les portraits d'Adrien, Sheila.
Lumière sur une carrière. Voici les portraits d'Adrien.
Le 2 avril 2021, Sheila sort son 27e album, Venu d'ailleurs. Cet album, au-delà d'être un simple recueil de chansons, c'est un voyage, que dis-je, une immersion dans la vie de cet artiste, idole d'une génération. Sheila, avec ses 11 titres, nous offre une rétrospective de sa carrière, mais aussi de sa vie intime. Je vous propose donc, grâce à cet album, de découvrir ou redécouvrir qui est Sheila. On était tous yéyés. Par ce titre tous yéyés du nouvel album, Sheila nous rappelle la décennie qui l'a propulsée au rang de star nationale. Annie Chancel, de son nom civil, est une jeune adolescente dans les années 60. Annie Chancel est une fille de commerçant en confiserie. Elle suivra ses parents sur les marchés pour vendre réglisse, sucette, cacahuète. Au début, la jeune fille se rêve artiste de cirque, mais elle s'orientera vers la musique. 1960, année cruciale. À l'âge de 15 ans, elle est repérée par Claude Carrière, qui voit en elle la nouvelle idole des jeunes. Il fera signer à ses parents un contrat d'exclusivité de 10 ans. Sort le premier 45 tours de l'artiste avec comme tout premier titre, le tout premier titre s'appelait Sheila, qui deviendra son nom de scène, naissance de...
jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné, tout au fond de mon cœur, je le garderai toujours, je te le promets. Jolie petite Sheila, jolie petite...
La machine est lancée, Claude Carrière va façonner l'image de Sheila. Sheila va incarner la petite fille modèle des années 60. Couette sur la tête, chemisier bien repassé, jupe à carreaux plissée, bref, rien ne doit dépasser. Sheila se fond dans cette France des années 60. Une France où est sacralisée l'autorité parentale. Une France qui est dirigée par un général. Une France où on commence à souffler un vent de liberté. Cette incarnation de la fille modèle transparaîtra dans les chansons de l'artiste, qui abordera des sujets légers et à destination d'une jeunesse bien élevée, ce qui lui assurera ses premiers succès dans ses années yéyé.
Ça signifie la
La machine est bien rodée. Sheila va enchaîner les plateaux télé. Elle sera la fille parfaite de tous les parents vont rêver. Sheila brillera pendant toutes les années yéyé. Elle enchaînera les succès sans écorner son image si bien maîtrisée.
Comme les rois mages en Galilée, suivez les yeux l'étoile du berger. Je te suivrai.
Mai 68 est arrivé avec ses pavés et son vent de liberté. Les années 70, Sheila voit son succès s'étioler. Dans son nouvel album, venu d'ailleurs sorti en avril 2021, le titre Baby Doll renvoie parfois à cette décennie où l'on pouvait encore se demander si Sheila était encore une idole. Suis-je encore ton idole ? Il faudra attendre la fin des années 70 pour que Sheila se réinvente. Nouveau look, veste à paillettes et boule à facettes. 1977, Sheila sortira sous le pseudonyme CSB Dévotion, ce titre qui plongera Sheila dans une nouvelle décennie, celle du disco. Spacer fera basculer Sheila dans une nouvelle décennie, celle du disco. Fini la fille convenue au chemisier repassé, chantant les rois mages, Sheila va se réapproprier son image. Elle profitera aussi de cette décennie pour se marier. Le 13 février 1973, dans le 13e arrondissement, à 13h13, avec Ringo. Naîtra de ce mariage un enfant, Ludovic, mais aussi ce titre mythique.
Laisse les gondoles à Venise.
Ce nouvel album, venu d'ailleurs, permet donc de nous replonger dans les décennies qui ont fait le succès de Sheila. Mais pas seulement. Dans cet album, Sheila ose aborder de front les sujets marquants de sa vie. Comme dans le titre « La rumeur », où Sheila revient sur cette histoire qui lui pourrira la vie. Dans les années 60, une rumeur naît. Sheila serait un homme. Cette rumeur fera la une des magazines et va poursuivre l'artiste toute sa carrière. Elle souffrira de ce mensonge, un mensonge encouragé par son producteur de l'époque. Ce dernier voyait en cette calomnie l'opportunité d'avoir une publicité à moindre prix.
Je ne suis pas celle qui chante, ni celle ou celui qu'on dit à la une de France Dimanche. Pas de fumée sans incendie. Mais qu'importe les offenses, la rumeur, la calomnie, oui.
Dans cet album, Sheila reviendra aussi sur le drame de sa vie. La mort de son fils en 2017, décédé à l'âge de 42 ans, à la suite d'une overdose.
Mon horizon, mon beau cheval, tu es libre et sans lendemain. Je n'ai pu ralentir ta course, ni te faire rebrousser chemin. Au fil de ton galop bancal, on est rinté, on est talon. Il ne pèse plus sur tes reins, ce qui talonnant faisait saigner mon cœur. À grands coups d'éperon, faisait saigner mon cœur. À grands coups d'éperon.
Je vous laisse donc découvrir le nouvel album de Sheila, venu d'ailleurs, qui vous permettra de voyager dans les styles musicaux, la vie et les décennies de l'artiste. Sheila le promet, ce ne sera pas le dernier. Voici pour vous Law of Attraction de Sheila sur Dynamic Radio.
Thank you.
C'était Sheila, Law of Attraction. Vous êtes dans votre émission De nous à vous sur Dynamique Radio et il est 19h38. C'est l'heure d'accueillir notre invité pour la seconde partie d'émission dédiée à notre interview De nous à vous. Et on retrouve Marie-Audrey Boisard. Marie-Audrey qui est chef d'entreprise et jeune maman d'un garçon de 7 mois qui est actuellement en formation pour devenir coach en parentalité empathique de la méthode Isabelle Filiozza. Alors, Marie-Audrey a créé un podcast qui s'appelle De la femme à la mère et de la mère à la femme. C'est une série d'interviews mettant en lumière les récits de femmes, de mères et de grand-mères pour partager leurs histoires, leurs expériences et leurs visions sur l'art de devenir parent. Alors, la parentalité positive, hein, rapidement, c'est une approche empathique qui utilise des techniques d'écoute pour répondre aussi bien aux besoins des parents que des enfants. C'est une approche qui privilégie la méthode de l'attachement et l'autonomie de l'enfant en s'appuyant sur la psychologie humaniste et positive. Mais je vais laisser Marie-Audrey nous parler de tout ça parce que moi, je suis complètement novice. Bonjour Marie-Audrey.
Bonjour Audrey, bonjour à tous et à toutes.
Comment ça va?
Eh bien écoute, ça va très très bien.
Alors Marie-Audrey, on se tutoie. Hein. Allô? Pardon? On se tutoie?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc voilà, donc on est au téléphone ensemble parce que je crois que tu es dans le sud de la France, c'est bien ça?
Oui, je suis en formation dans le sud de la France pour du développement personnel en PNL.
Voilà, donc bon, on fait la même chose, donc c'est génial. Merci en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. J'ai un petit peu expliqué ce qu'était que la parentalité positive, mais est-ce que toi, tu peux nous expliquer avec tes mots ce que c'est et surtout, qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui et que tu t'es orientée vers cette méthode?
Eh bien écoute, la parentalité positive, en fait, c'est une approche. C'est une approche empathique auquel on donne des clés à être et à devenir parent. Parce qu'en fait, on n'est pas parent. C'est pas parce qu'on a accouché, qu'on vient d'avoir un petit garçon, une petite fille, qu'on est parent. Loin de là, en fait, c'est tout un chemin, un accompagnement pour construire, en fait, ce lien avec son enfant, pour écouter les besoins de son enfant, mais aussi écouter les siens. Parce que être parent, c'est être aussi à l'écoute de ses besoins. C'est utiliser par exemple des techniques d'empathie, d'écoute, toute cette notion d'attachement avec l'enfant, c'est une attitude en fait.
D'accord.
C'est vraiment le mot, attitude.
Et du coup, ça s'adresse à qui finalement les accompagnements en parentalité positive? Est-ce que ça s'adresse que aux parents? Enfin...
Ça serait simple si c'était ça. J'aimerais bien que ça s'adresse que aux parents, mais non, malheureusement, en fait, ou heureusement, je ne sais pas trop. Ça s'adresse aussi bien aux parents que finalement au noyau familial. Donc ça peut être toutes les personnes référentes, les grands-mères, les grands-parents, les oncles, les tantes. Mais c'est aussi et beaucoup pour tout le secteur, en fait, éducation.
D'accord.
Les crèches, les profs, tous les assistantes au niveau médical, tous ceux qui sont liés finalement à cette notion d'enfant et qui ont un impact en fait sur cet enfant.
D'accord. Et moi, Marie-Audrey, ce que j'ai bien aimé au début, vous avez précisé qu'on apprend à être parent, qu'on le devient et que ce n'est pas une évidence. Et c'est vrai, il y a des gens qui sortent d'un accouchement et qui sont un peu désemparés, qui pensaient que ça allait venir naturellement et pas du tout. Et au moins, vous permettez d'avoir des clés à ces gens qui n'arrivent pas à avoir les clés en main tout de suite.
Ben oui, exactement. Parce que en fait, c'est ce que nous montre la société, c'est qu'on croit à devenir, du moins être parent tout de suite maintenant, alors que ça s'apprend en fait.
Et il y a un petit côté même à culpabiliser les gens.
Exactement, mais vous avez tout compris. C'est pour ça que les apports en fait des neurosciences aujourd'hui nous apprennent beaucoup sur le cerveau et sur le cerveau humain, mais aussi sur le cerveau de l'enfant, enfin, les régulations des émotions. Sur la maturité du cerveau. On demande souvent des choses à un enfant auquel son cerveau est incapable de faire.
De répondre.
Faire, hein, bien sûr,
et ça, il faut le savoir pour pouvoir anticiper tout ça.
Et ça, finalement, tu t'en es rendu compte en devenant maman?
Et oui, et je suis tombée dedans, en fait.
Je suis tombée dans la marmite.
C'est en devenant maman que j'ai découvert tout un monde qui était la parentalité, et la parentalité bienveillante et positive. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, on ne nous apprend pas ça. Personne ne nous dit, bah tiens, en fait, quand tu vas être maman ou papa, ça va être ça, 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 il faut telle clé, etc. Mais on est loin de tout ça. On accouche, on est face à fait accompli, et voilà, débrouillez-vous maintenant.
Débrouillez-vous, madame.
C'est dur.
Il n'y a pas quand même des bons ouvrages aussi qui aident, ou alors les ouvrages ne sont pas assez complets et qu'il faut quand même un accompagnement? Parce que bon, on a quand même beaucoup d'ouvrages sur appréhender la naissance, mais du coup, ce n'est peut-être pas assez suffisant pour comprendre ce qu'est cette parentalité immense, en fait.
Bah déjà, la meilleure façon de comprendre, en fait, c'est de le vivre et c'est d'être, en fait, dans cet état de parent. Et puis après, il y a effectivement aujourd'hui beaucoup d'auteurs à ce sujet-là. Et puis c'est de prendre, en fait, ce qui nous correspond au moment clé.
Oui.
Puisque c'est toute une évolution, tout un chemin auquel, bah, à des moments, on va avoir besoin de telles réponses et puis de telles réponses. Et puis si des auteurs ne suffisent pas, bah effectivement, un coach et un regard extérieur pour un peu aiguiller ou me remettre des pendules à l'heure, ça sert.
Ouais, c'est pas mal,
c'est
ça.
Vrai.
Et du coup, ça repose sur des grands principes, j'imagine, cette philosophie. C'est quoi les grands principes, finalement, de la parentalité positive ?
C'est des grands principes que, finalement, on est en train de... Alors, je pourrais pas dire que tout le monde connaît, mais c'est basé sur des approches de développement de soi. Par exemple, la communication non violente, la Gestalt. La Gestalt, c'est tout ce qui est comment on régule les émotions. Tous les courants humanistes, comment comprendre l'être humain. La PNL, la programmation neurolinguistique.
Qu'on connaît bien maintenant, chez Dynamique Radio.
Voilà. Ça nous sert, et en fait, c'est toutes ces sciences et neurosciences qui nous permettent d'avancer sur l'être humain et de savoir comment il fonctionne, comment notre machine
Bien
interne
sûr.
Fonctionne pour
Bien
mieux
sûr.
Booster et le doper.
Et beaucoup voient cette éducation finalement, enfin beaucoup, quand on lit finalement, parce que je me suis renseignée un petit peu avant aujourd'hui quand même. Ben oui. Beaucoup voient cette éducation comme laxiste ou trop permissive. Et qu'est-ce que tu en penses ?
Ah ouais, c'est le grand courant, ça.
Ouais.
Y a eu aujourd'hui les enfants rois. Alors les enfants rois, effectivement, c'est une parentalité laxiste auquel on ne dit rien à l'enfant et puis on laisse faire. Et puis nous, à notre génération, on a eu finalement la parentalité autoritaire, c'est avec la punition, avec voilà les menaces, la dominante. Aujourd'hui, ce serait plus finalement d'imposer un cadre. Et dans ce cadre-là, il y a une liberté. Et de montrer à l'enfant que quand même, l'être humain, parce que c'est pas vraiment l'enfant, mais l'être humain a besoin de règles et de droits. Mais qu'à l'intérieur, finalement, de cet écosystème, il est libre. Et libre dans cette liberté de le guider, en fait, pour l'accompagner à grandir, à évoluer et à devenir adulte.
C'est intéressant, hein ?
D'accord, oui. Hein. C'est vrai que... Les générations ont vécu quand même avec un type de parentalité qui était très... les générations précédentes, c'était la sévérité, on ne parlait pas à table. Et c'est vrai que chacun, un peu sa décennie dans laquelle tu es né, il y a un peu des comparaisons et un peu une parentalité à la mode, on va dire, et que ça évolue, mais de mieux en mieux quand même, non ? Plus ça va, mieux c'est quand même.
Quand même, mais aujourd'hui, regardez, donner des punitions ou mettre un enfant au coin, et l'humilier devant toute la classe, c'est quelque chose de normal et d'ordinaire, ce qu'on dit aujourd'hui. Ça s'appelle une violence, des violences ordinaires. Mais c'est un choc quand même.
C'est vrai, et que ce n'est pas qu'une histoire de parents, là, c'est l'institution carrément qui véhicule ça. Donc c'est pire en fait, c'est institutionnel.
C'est un détail pour la personne qui fait ça, mais en fait pour l'enfant, ça peut le traumatiser à vie hein, derrière.
C'est ça. En fait, faut réellement rentrer dans une relation gagnant-gagnant avec l'enfant et l'adulte. L'enfant n'est pas un être soumis à l'adulte. Il n'y a pas de position haute ou basse. Mm-hmm. On est d'un pied égal à égal. Et comment on peut grandir et évoluer ensemble ?
Et finalement, tu as choisi, toi, la méthode d'Isabelle Filiozza. Est-ce que, déjà, qui est cette personne ? Et est-ce qu'il y a d'autres courants, finalement, de parentalité positive ? Ou est-ce que seule cette personne... fait ça aujourd'hui ?
Oh, il y en a plein. Il commence à naître beaucoup, beaucoup de courants par rapport à la parentalité positive. Moi, j'ai choisi alors Isabelle Filiozza. Elle est psychothérapeute, auteure d'une trentaine de livres, publiés au moins dans une trentaine de pays. Elle est conférencière, consultante pour des institutions. Elle a été nommée là vice-présidente pour, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la commission des 1000 jours de l'enfant. Depuis
alors moi je ne sais pas du tout ce que c'est donc qu'est-ce que c'est.
Donc si tu peux expliquer rapidement.
Je vais expliquer rapidement. Alors en fait c'est des professionnels de l'enfance.
D'accord.
sous la présidence en fait de Boris Cyrulnik, qui se sont réunis au nom de la présidente Emmanuel Macron pour décider de l'orientation de l'enfant. Et les 1000 premiers jours, c'est environ les deux premières années sur comment on peut modifier finalement un état d'être sur l'enfant. Comme par exemple aujourd'hui sur l'allongement de la paternité, du congé parental pour le père.
Ça, c'est pour moi, c'est normal. C'était encore aujourd'hui, on est très en retard, je trouve, hein, là-dessus. Ça n'arrive que maintenant.
Oui, mais c'est long. C'est long, mais on y arrive petit à petit. Et cette commission a servi à ça pendant un an et demi pour mettre plein de choses en place qui vont sortir des années futures.
D'accord, je n'en avais pas entendu parler.
Je vous propose qu'on s'arrête juste quelques minutes, le temps d'écouter un titre qui est vraiment en rapport finalement avec notre sujet, hein, le titre de Rose, et puis Juin, qui raconte les 9 mois de grossesse.
Entre deux saisons, un sourire à la con.
Rose et puis Juin sur Dynamique Radio. Et on retrouve Marie-Audrey Boisard, hein, qui est avec nous par téléphone. Marie-Audrey qui est chef d'entreprise, qui est jeune maman et qui est aussi experte, on va dire, en parentalité positive. Marie-Audrey, est-ce que tu es toujours avec nous ?
Je suis toujours avec vous.
Bon, super.
Moi, j'avais une question sur les personnes du coup, que tu souhaiterais accompagner ou qui ont donc un besoin d'accompagnement. Généralement, c'est des parents qui anticipent la naissance ou c'est plus après coup où ils font appel à cet accompagnement. Comment ça se passe ?
Ouais, alors c'est plus après coup puisque c'est vraiment des problématiques. Ils sont en train de le vivre à devenir parents.
Ça pourrait être avant, ouais.
Ça peut être avant, en fait. Ça peut être avant, mais il y a d'autres métiers qui sont comme les doulas, qui préparent, en fait, la femme dans ce processus à devenir maman.
Il
y a d'autres métiers qui sont liés vraiment à la préparation de devenir parent, en fait.
D'accord, donc
mais
c'est...
J'ai jamais entendu les doulas.
Oui.
Les doulas, c'est un autre métier en fait qui est lié aussi à la préparation en fait de la femme qui est en train d'être enceinte, qui est enceinte, pour la préparer dans cet état de devenir maman. Par exemple, les prises de sang, c'est un accompagnement aussi empathique, être à l'écoute, des stress de comment je fais pour. Je sais pas, la grossesse, qu'est-ce qui se passe si j'ai mal ici, j'ai mal là, voilà, c'est pour. C'est un autre métier qu'on entend très très peu parler, mais qui a beaucoup d'avenir.
Effectivement, hein, c'est peu connu, c'est très très peu connu. Et Marie-Audrey, on parle beaucoup ces dernières années de méthode Montessori hein, dans la pédagogie de l'enfant. Méthode Montessori qui, je le rappelle, c'est une pédagogie éducative basée sur la liberté de l'enfant, dans le choix de ses activités, de l'apprentissage, par l'expérimentation et surtout l'autonomie. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la parentalité positive ?
Aujourd'hui, Montessori, on est en plein dedans.
Oui.
Et Montessori est très centrée en fait sur l'enfant. Maintenant, l'approche parentalité positive est rentrée sur l'enfant, mais aussi sur le parent. En fait, d'accord. Être à l'écoute du besoin du parent. Le parent, par exemple, quand il est en colère, peut-être qu'il va manifester cette colère et il va le dire à l'enfant, oui, je suis en colère, mais je suis pas en colère contre toi, je suis en colère parce que j'ai eu une journée, fatigante, stressante, et là, j'ai besoin en fait d'une minute pour me reposer, pour être relaxé, avant finalement d'être avec cette petite chose humaine qui a plein d'énergie et qui est là, hyper stressante pour nous, auquel on a eu déjà une journée bien, bien chargée. Voilà, des petites choses comme ça, en fait, c'est de communiquer.
D'accord, donc...
Montessori, c'est très approche, finalement, physique, et avec plein de processus, de jeux, etc. Et la parentalité positive, c'est une communication.
D'accord, il y en a une aussi qui s'oriente vraiment sur l'enfant, et l'autre sur l'enfant et le parent, finalement, aussi.
Exactement.
D'accord. Et jusqu'à quel âge, du coup, cette méthode, finalement, elle a de l'impact sur l'évolution et le développement de l'enfant ? Jusqu'à quel âge on pratique la parentalité positive ? Est-ce que c'est à vie ? Comment ça se passe ?
Normalement, on est parents à vie, hein, normalement.
Oui, on est parents à vie. Mais je veux dire, jusqu'à...
Audrey, tu ne l'abandonnes pas au bord de la route.
Jusqu'à quel âge, finalement, oui, ça a un impact sur le développement de l'enfant et sur son cerveau, je veux dire ?
jusqu'au bout. Finalement, en fait, il y a aussi, dans le parent, il y a aussi un moi enfant. Donc, on agit aussi beaucoup là-dessus. franchement, jusqu'à aujourd'hui, on a cru que c'était la parentalité positive que par rapport à jusqu'à 10 ans. Mais on est en train de voir que aussi il y a la gestion d'un ado. Et dans cet ado, en fait, on gère sa partie enfant, mais sa partie adulte qui est en train de se construire. Mmh. Et donc le parent, derrière, est un peu déboussolé par rapport à ça. Donc, en fait, c'est à vie la parentalité positive. Puisqu'on,
c'est un cercle vertueux aussi. Hein.
Parents, quoi.
J'ai l'impression. C'est un cercle vertueux.
Exactement, ouais, ouais.
Et donc, tu as créé, toi, Marie-Audrey, un podcast. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement?
Face finalement à ma jeunesse de maman et aux problématiques que c'est d'être maman, je me suis dit qu'en fait, on n'avait pas assez d'entraide et de communication entre mamans, de passer ce stade de la mère, de la femme à la mère et de la mère à la femme, mais en soi. Et en fait, on switch très rapidement entre « Ah, bah tiens, il faut que je donne le biberon à mon enfant, donc je suis moi maman. » Et puis, ah mince, il y a au téléphone, bah tiens, il y a mes clients qui m'appellent. « Ah, il faut que je prenne le rôle en moi de femme. » Et en fait, c'est à créer un podcast auquel de partager toutes les expériences de maman, de femme, dans leur façon à devenir parent, à devenir mère ou pas.
D'accord, donc c'est un échange de bonnes pratiques, un échange de finalement de comment tu fais toi pour t'en sortir dans ton rôle quotidien, d'accord.
Et il aura quel format? C'est des longs formats, des épisodes? Est-ce que tu vois à peu près comment le podcast va être construit?
Oui, bien sûr, il a déjà débuté. Alors, il n'est pas encore lancé sur les réseaux, mais j'ai déjà fait quelques interviews. J'attends quelques réponses pour avoir un impact. Aujourd'hui, ça va être une interview avec une personne et une problématique. Par exemple, je vais interviewer Laetitia, qui est maman célibataire de deux enfants, comment elle fait avec son quotidien. Et puis après, je vais lui poser plein de questions et elle va nous raconter en fait son quotidien et sa vie pour que d'autres femmes puissent se reconnaître en elle. Et puis, elle va nous donner des astuces, des clés, peut-être que d'autres vont utiliser ou pas. On n'en sait rien.
On échange de bonnes pratiques.
C'est un peu un petit côté testimonial aussi, du coup.
Comment ?
C'est un petit côté testimonial, du coup. La personne, elle se livre sur ce qu'elle vit et voilà, exactement. D'accord.
Ouais. En fait, c'est pour gagner en légitimité et en confiance en soi.
C'est beau. C'est beau, c'est génial en fait d'arriver à développer ce genre de choses parce que, bon, je vais pas faire la féministe, mais c'est vrai que la femme est quand même souvent oubliée.
Et moi, je vais aller les écouter, ces épisodes, hein, quand ils vont sortir.
Et
hein.
Oui, comment on fait pour les écouter, ces épisodes? Et comment on fait pour te contacter, Marie-Audrey, si on veut
Pour le moment, c'est sur les réseaux.
D'accord.
Donc, Marie-Audrey Boisard.
Donc, Boisard, B-O-I-S-A-R-D.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Après, je suis accessible par mail et par téléphone pour échanger, discuter.
D'accord. Voilà. Et donc, bien sûr, on retrouvera le podcast de l'émission hein, sur notre page podcast de Nous à vous Radio. Donc, si besoin aussi, vous pouvez aller sur la page Instagram, laisser un petit message et on vous réorientera vers Marie-Audrey si besoin. Voilà. Et ben, merci beaucoup, Marie-Audrey. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et puis,
Comment ? Merci aux auditeurs,
oui,
c'est important.
Merci aux auditeurs,
c'est important.
Bien sûr, sans eux, on ne serait pas là. À très bientôt.
À très vite, merci. Au revoir, merci.
Et c'est la fin de votre émission, de notre émission, hein, de Nous à vous Radio sur Dynamique Radio. Merci à Marie-Audrey d'avoir été avec nous par téléphone ce soir. Merci à toi Adrien.
Merci Audrey pour ces 8 émissions fabuleuses à tes côtés, c'était top.
Et oui, c'est la dernière émission de la saison. Hein. Merci à Pauline Alaréa aussi.
Qui nous a accompagnés pendant toute cette aventure. Merci aux invités.
Merci aux invités,
voir.
À tous nos invités, effectivement. Et si vous souhaitez réécouter l'émission ou réécouter les autres émissions, rendez-vous sur la page Instagram de Nous à vous Radio ou directement sur la page de Nous à vous, lepodcast.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et on se retrouve à la rentrée. Et surtout, n'oubliez pas, souriez à la vie.
Dynamique Radio. Dynamique. La radio Hits and Dance.
La radio Hits and Dance. Ouais.